Matin.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on n'est que pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Invité un peu exceptionnel aujourd'hui puisqu'il s'agit du lauréat du prix européen GMF. Suspense, suspense, je vous le présente tout de suite. Juste avant, je vous annonce la suite quand même. Visite de bibliothèque, celle de Pierre Assouline aujourd'hui. Un tour chez Sandrine Babu, notre libraire. Et retour en studio pour la suite et la fin avec Sébastien Bordenave et ses bandes dessinées. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Ils étaient cinq romans dans la sélection du prix européen GMF. Et comme dans tous les prix, à la fin, il n'en reste qu'un. Bonjour Antoine Billot.
Bonjour.
C'est donc vous l'élu, prix européen GMF pour Le Soldat Ulysse. C'est chez Gallimard. Je suis obligé de commencer par cette question. Alors, heureux?
Oui, incontestablement. Je suis même absolument ravi. Je pense que les gens qui étaient autour de moi au moment où j'ai eu l'information pourraient en témoigner. C'est toujours, je pense, plaisant pour un écrivain de se voir remettre un prix. Ça, on a l'impression de sortir un petit peu de la fabrique et de toucher quelque chose, une résonance, un écho comme ça qui est... Non, c'est absolument... c'est très agréable.
Ça fait toujours très plaisir aux écrivains, évidemment, de recevoir un prix, mais il y a toujours aussi cette contradiction d'avoir mis la littérature en compétition.
Alors, je comprends, mais ça, c'est plus un problème des jurés, en fait, du prix. Après, bon, la compétition, de fait, elle existe, puisque de toute façon, les livres, une fois qu'ils sortent de nos ateliers, en fait, finissent sur des étals et donc sont en compétition implicite. Donc ça, on la vit, en fait, fondamentalement dès le départ. Après, on sait très bien que ce qui fait que l'un va être choisi plutôt que les autres repose sur une liste de critères qui est variable, mobile. Donc on ne se fait pas d'illusions non plus, hein, c'est jamais une consécration absolue. Mais néanmoins, ça fait chaud au cœur, encore une fois, parce que ça, c'est vraiment la manifestation d'un écho et d'une résonance de ce qu'on a fait. Et on a l'impression, on a vraiment la sensation qu'on n'a pas écrit dans le vide et c'est très plaisant.
Alors, Le Soldat Ulysse, c'est l'histoire d'un type, un soldat, vu son uniforme, qu'on retrouve dans une gare parisienne juste après la Première Guerre mondiale. Il est hagard, blessé même, il est manifestement désorienté, le mot est faible. On l'envoie d'abord chez les fous, au Kremlin-Bicêtre, on va en parler. Et puis il y a un médecin militaire du Val-de-Grâce, Oscar Miloche, qui le récupère. Il se trouve que l'homme est complètement amnésique. On l'appelle par un numéro, 1604502, c'est pas très pratique, mais bon, il faut bien l'appeler d'une certaine manière. Impossible de savoir qui il est, et problème aussi pour la pension militaire, puisqu'il n'est personne. Et puisqu'il n'est personne, justement, le médecin décide de l'appeler Ulysse, mon nom est personne. Vous nous rappelez cette histoire de la mythologie, au passage, qu'on adore, c'est toujours bon, de mon nom est personne.
Oui, c'était cette phrase que Ulysse prononce face au Cyclope, qui est en fait qui est subtile parce qu'en réalité c'est je suis personne. Il n'y a pas de négation. Donc personne, logiquement si on n'a pas de nom, on devrait dire je ne suis personne et dit je suis personne. Donc personne finit, ce mot finit par devenir en fait une entité et ça correspond assez bien.
Et comme il est personne, le cyclope le laisse tranquille en fait.
Et en fait oui absolument.
Puisque c'est personne.
Et puisque c'est personne. Et c'est cette ambiguïté sur laquelle Miloche s'amuse en fait à plaquer l'histoire de ce soldat. Le numéro de matricule en fait il est formé de sa taille, de son poids, enfin d'un certain des seuls éléments objectifs avec lesquels il est repérable. Et donc comme c'est extrêmement compliqué de l'appeler par son matricule et puis plus encore un matricule, il y a rien de plus inhumain qu'un matricule et donc pour lui conférer un minimum d'humanité à nouveau, voilà, on l'appelle le soldat Ulysse.
Et il fait ça avec ses patients amnésiques, il a trouvé d'autres noms comme ça.
Voilà, il fait ça avec tous ses patients amnésiques, enfin tous les patients qu'il traite au service de psychiatrie de l'hôpital du Val-de-Grâce.
Oui. Alors vous venez de nous expliquer comment était construit un matricule à l'époque, et puis il y a aussi des vrais faux rapports de médecine pour parler du soldat Ulysse, et on sent qu'il y a une vraisemblance quoi. Vous êtes allé plonger dans les archives, vous connaissiez, vous êtes inspiré de cas réels?
Alors j'ai lu, j'ai lu pas mal de choses, j'ai lu des rapports de médecine de l'époque, et je me suis inspiré de tout ça pour... En fait, au départ, il y a une histoire vraie, il y a des éléments historiques réels qui sont... Donc 6 soldats totalement amnésiques ont été retrouvés à la fin de la guerre de 14. Alors quand je dis totalement amnésiques, ils sont deux fois amnésiques d'une certaine manière. Ils sont amnésiques d'une part parce qu'eux n'ont plus aucune mémoire et sont incapables de dire qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Mais la société était également amnésique à leur égard, c'est-à-dire que personne ne les demande, personne ne se manifeste pour les demander. Et donc ils sont dans cette espèce de vide total qui est très particulier et qui en fait amène finalement le ministère des anciens combattants de l'époque à organiser une campagne de presse en diffusant donc leurs photos, leurs portraits un petit peu partout en France, dans la presse et en collant des affiches un peu partout, en sorte que les éventuelles familles puissent se manifester.
On va y venir à la photo, mais juste avant, je voudrais évacuer ce qui ne dure pas très longtemps dans le livre, mais donc on le récupère comme ça. C'est une sorte de loque humaine, en fait. Il est pas bien, il est crasseux et tout. Il dit n'importe quoi, il dit des « ouh, hi ». Je le dis avec un accent anglais, bizarrement, alors que c'est des onomatopées. Il ne faut pas qu'on en dise trop là-dessus. Ouais. Mais il se retrouve au Kremlin-Bicêtre, donc chez les fous. Et vous décrivez le Kremlin-Bicêtre au début du XXe siècle. C'est pourtant pas si vieux, mais...
Oui, mais c'est vrai, ça aussi, c'est à partir d'éléments que j'ai trouvés à gauche et à droite, avec en plus le fait que la psychiatrie militaire était à l'époque tout à fait balbutiante. Maintenant, elle est beaucoup plus développée et les choses sont un petit peu plus organisées. Mais à l'époque, on ne reconnaissait en vérité comme blessures que les blessures physiques. Et donc, quand des gens revenaient du combat avec des blessures qui n'étaient pas visibles, il n'y a pas de sang, les gens n'étaient pas mutilés, mais manifestement, ils n'allaient pas bien. Et donc, c'était extrêmement compliqué de savoir quoi en faire. Et la plupart du temps, le plus simple était simplement de considérer que, ils étaient devenus fous. Et donc, on les rangeait avec les fous. Ce qui veut dire un certain nombre de choses, puisque là aussi, à l'époque, le traitement que l'on avait des malades psychiatriques n'était pas forcément celui qu'on a aujourd'hui. C'était assez terrifiant. Et à tout cela, quand on rajoute tout cela, le désordre de la guerre, une organisation un petit peu à l'arrache, en fait, de l'armée pour ces gens qui revenaient du front, voilà, on arrive à se faire une idée du chaos que ça pouvait être.
Et vous n'avez pas voulu creuser ce contexte-là, parce que je l'ai dit, hein, ça, en quelques pages, on sort du Kremlin-Bicêtre pour aller au Val-de-Grâce. Vous vouliez être au Val-de-Grâce, vous ne vouliez pas explorer justement ce monde terrible qui est presque trop, en fait, pour un roman même, du Kremlin-Bicêtre.
Alors non, je ne voulais pas rester au Kremlin-Bicêtre, mais aussi parce qu'une des choses qui est notée dans la littérature psychiatrique de l'époque, c'est pour ces très grands amnésiques, il y a toujours un épisode de fuite. Oui. Et donc ils s'en vont.
Il y a une très belle histoire d'évasion.
Voilà. Et dans la mesure où le monde des hommes ne les reconnaît plus, en fait, ils décident de s'en abstraire et donc ils cherchent à fuir. Mmh. Et donc mon soldat sera, il va suivre cette voie-là. C'est-à-dire qu'en gros, il va chercher à partir. Il va réussir du reste à s'évader du Kremlin-Bicêtre et pour retourner à une sorte de vie sauvage, c'est-à-dire éloigné des hommes, jusqu'à ce que finalement il soit repris et effectivement à ce moment-là envoyé.
Chassé même,
oui. Et renvoyé donc finalement au Val-de-Grâce entre les mains du docteur Miloche.
Mais c'est ce que j'allais dire, est-ce que vous êtes allé au Kremlin-Bicêtre exprès pour pouvoir vous concocter une bonne histoire d'évasion ?
Non, je suis pas.
Parce qu'on sent que ça.
Ouais, je suis pas jusqu'à
la joie dans l'écriture. Là.
J'ai vu des photos, j'ai fouillé un certain nombre de documents qu'on pouvait trouver, y compris des descriptions. Donc je me suis inspiré de tout ça, j'ai fait un peu j'ai fait un melting pot de tout ça et pour avoir une sorte d'appréhension de ce que pouvait être un asile psychiatrique comme ça juste après la guerre.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Antoine Billot pour Le Soldat Ulysse chez Gallimard, lauréat du prix Europe 1 GMF. C'est l'histoire d'un soldat qu'on a retrouvé après la guerre dans une gare. À Gare d'ailleurs, et qui est emmené d'abord au Kremlin-Bicêtre, chez les fous, puis ensuite au Val-de-Grâce et pris en charge par un médecin militaire, un colonel, pour soigner son amnésie, enfin essayer en tout cas, puis essayer aussi de lui redonner une vie. Parce qu'il y a plusieurs problèmes, évidemment pour lui c'est évident, mais des problèmes administratifs. Et au bout d'un moment, comme il n'est personne, comme il n'a pas de nom, pas d'identité, il n'a pas de dossier non plus dans cette administration, dans cette bureaucratie. Et il est convoqué, ce médecin-chef, par son autorité supérieure, pour qu'on lui explique que, comme il n'a pas de nom, on ne va pas pouvoir payer des soins éternellement. Et qu'à la fin de l'année, il faudra trouver une autre solution parce que c'est terminé. C'est incroyable, ça.
C'est incroyable, mais c'est vrai. Moi aussi, j'étais complètement stupéfait quand j'ai lu cette histoire. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'administration a une espèce de comportement complètement kafkaïen qui fait que si vous ne rentrez pas dans les cases, l'administration ne vous traite pas. Et donc, pendant un certain temps, le ministère des Anciens Combattants accepte de payer une pension pendant un certain temps, mais de manière assez brève, en fait, 6 mois. Et puis, au-delà de 6 mois, c'est terminé. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on se retourne contre la région, parce qu'il y a des systèmes d'allocation, d'assistance. Mais en fait, la logique est la même. Donc, ils vous retournent en vous disant, on n'est même pas sûr qu'il soit de la région. Peut-être qu'il vient d'ailleurs. Donc, pourquoi ce serait cette région-là qui paierait plutôt qu'une autre? Et donc, on se retrouve devant une situation totalement kafkaïenne, où plus personne, en réalité, ne veut payer pour le malheureux soldat Ulysse. Sachant en plus que donc comme il est extrêmement amnésique, que c'est très compliqué pour le réintégrer dans le monde des vivants, entre guillemets, ça va prendre du temps. Et si ça va prendre du temps, que fait-on pendant tout ce temps-là? Qui va payer? Est-ce que ça doit être encore à la charge de l'armée? Et le pauvre docteur Miloche subit des pressions considérables pour accélérer le processus.
Éventuellement, Miloche commence à se demander si c'est pas lui qui va devoir payer, parce qu'il n'a pas envie de le lâcher. Alors il faut trouver une solution. On prend une photo de lui, on le fait beau et tout ça, on lui met un costard et puis on prend une photo qu'on publie dans les journaux en attendant que quelqu'un morde à l'hameçon, qu'il soit reconnu. On sait quand même qu'il doit y avoir une Barbara dans l'histoire parce qu'il parle souvent d'une Barbara, cet homme, ce soldat Ulysse, dont je rappelle qu'il n'a qu'un pseudonyme pour l'instant que le médecin lui a donné, Ulysse. On publie donc la photo dans les journaux et là, c'est pas la pénurie de lettres de réponse, c'est plutôt l'abondance. Il y a des centaines, voire des milliers de lettres de gens qui disent « c'est moi, je l'ai reconnu, c'est le mari, c'est le frère, c'est l'etc. etc. » Pourquoi? Parce que la photo est... on reconnaît, quoi, même s'il a été amoché par la guerre. C'est des gens qui veulent que ce soit lui.
Oui, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il devient une espèce de monument vivant. Et tous les gens, alors il faut savoir quand même que durant la guerre de 14-18, il y a eu un nombre considérable de gens, de soldats qui sont morts sans qu'on retrouve leurs dépouilles, qui se sont mélangés à la terre dans laquelle ils sont tombés. Et donc il y a des milliers de familles qui n'ont pas d'endroit pour terminer le deuil. Il n'y a pas de tombe, il y a éventuellement un nom sur un monument, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a. Et donc toutes ces familles, à un moment donné, se font cette espèce de rêve un peu fou de se dire, mais après tout, peut-être transformé par les combats, puisqu'on peut penser quand même qu'après 4 ans de guerre, effectivement, on est très différent de ce qu'on était avant. Bah, peut-être que ce type sur cette photo, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est mon frère, peut-être que c'est mon père, etc. Et donc toutes ces familles en même temps, qui donc n'ont pas eu la dépouille de leur mort, se disent après tout, pourquoi pas? Et donc elles vont écrire au pauvre docteur Miloche qui va se retrouver totalement envahi par des milliers de lettres. Et puis il va falloir trier dans toutes ces lettres. Et c'est là où ça devient particulièrement compliqué.
Et puis ensuite, il y aura toutes les séances où on amène les gens devant Ulysse.
Alors il y a un premier filtre. Donc à partir de ces milliers de lettres, on filtre à partir des éléments qui sont indiqués quand même dans les lettres. Donc on a quelques points de repère. Donc vous citiez le prénom, c'est ce prénom qui revient, Barbeau, un certain nombre de fois. Et puis d'autres éléments qui sont des éléments par exemple anatomiques, enfin une cicatrice quelque part, etc. Donc avec tout ça, on finit par filtrer des gens. Et puis la seule solution, c'est de rencontrer ces gens et de les mettre face au soldat Ulysse. Et donc le docteur Miloche organise donc ces rencontres avec tout ce que ça peut avoir de pathétique, de ces familles qui rentrent avec l'espoir au cœur et qui vont ressortir, bien entendu, la plupart, presque toutes, par définition, ça y est, terminé, quoi. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini.
Il a un effet personnel quand même, c'est un foulard qui peut-être éventuellement sera un indice. Et puis aussi, je ne l'avais pas précisé, mais son uniforme, il est vide de tout badge ou d'écusson ou de galon.
Ouais.
Pourquoi? Est-ce que ça c'est aussi, vous l'avez pêché dans la réalité de l'histoire?
Oui,
ou
alors,
pour votre intrigue à vous, c'était plus
non,
simple?
Ça tombait bien, mais c'est aussi un fait qui a été qu'on sait historiquement. C'est-à-dire qu'en fait, d'une part, les soldats français qui allaient être faits prisonniers souvent arrachaient leurs insignes et leurs signes distinctifs, en sorte que les Allemands ne puissent pas être, ne avoir d'informations sur les unités qui se trouvaient là, etc.
Vous êtes colonel, venez par ici, quoi.
Oui, voilà. Exactement. Et puis par ailleurs aussi, on savait qu'un certain nombre de gens qui avaient des velléités de désertion, par exemple, mais pour des raisons assez identiques, en réalité, arrachaient aussi tous leurs signes distinctifs. Donc on ne sait pas très bien est-ce qu'il était déserteur ou est-ce qu'il a été prisonnier, on n'en sait rien. Mais donc c'était tout à fait crédible à ce moment-là de rencontrer des gens qui étaient simplement avec leur uniforme, mais sans signes distinctifs.
Je ne sais plus si c'est moi qui ai eu cette réflexion pendant la lecture ou si c'est vous qui l'écrivez, mais il y a un côté le soldat inconnu qui devient célèbre.
Oui, c'est ça. Vous l'avez eu et je le dis implicitement. Enfin, c'est vraiment le soldat inconnu vivant. C'est-à-dire qu'en fait, il est une sorte de monument vivant de tous ces morts. Et je crois que c'est. Mais en plus, c'est, encore une fois, il y a un des 6 personnages dont je parlais dans l'histoire vraie, qui s'appelle Anthelme Mangin, qui a eu une trajectoire à peu près identique. C'est-à-dire, en gros, c'est quelqu'un qui brutalement va se trouver dans une position d'incarner le manque, l'absence, tout ce qui a été accumulé par ces gens qui ont disparu. On n'imagine pas aujourd'hui l'espèce de creux démographique qui a représenté la guerre de 14. Et donc, il y avait une sorte, d'appétit véritablement pour de toutes ces familles, de la population entière, pour cette possibilité de survivance malgré tout.
C'est un espoir.
Un espoir, voilà. pouvoir nourrir l'espoir à partir de ce personnage qui a cette plasticité par définition de pouvoir au moins au départ épouser toutes les individualités.
Alors Oscar Miloche, pourquoi il s'appelle Oscar Miloche?
Alors il s'appelle Miloche à cause du poète.
M-I-L-O-S-Z.
S-Z. Ouais. Et parce que je voulais, alors bon, après le personnage lui-même, je voulais le construire en sorte qu'il avait un rapport à l'identité qui était peut-être un rapport un peu plus compliqué qu'en aurait eu un soldat, je ne sais pas moi, né en Bretagne, je ne sais quoi. Donc c'est un fils d'immigré qui a été confronté à des problèmes d'identité quand il était enfant et qui donc a une sensibilité particulière par rapport à ces problèmes. Et il rencontre en le soldat Ulysse quelque chose comme une espèce de cas pur de problème d'identité puisqu'il en est dénué totalement, puisqu'il ne se souvient de rien et que personne ne se souvient de lui. Et donc, on peut penser que l'empathie très grande que Miloche va finir par développer à l'endroit du soldat Ulysse vient de ça, vient de son propre rapport à l'identité, à la culture et à la culture française.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La voix est livre continue toujours avec Antoine Billot pour Le soldat Ulysse chez Gallimard, grand roman très romanesque. Et prix européen GMF, lauréat du prix européen GMF. Antoine Billot, on en parlait tout à l'heure de l'identité. C'est aussi un livre sur l'identité. On ne va pas évidemment dévoiler la fin. Mais il y a un moment où on se pose la question, est-ce qu'au fond, c'est si important de ça, de savoir qui il est vraiment, d'être sûr que c'est bien lui et pas un autre?
Non, vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce vers quoi je voulais aller. C'est-à-dire qu'en réalité, la question est même posée explicitement par le docteur Miloche qui dit à la fin, peut-être qu'on ne saura jamais véritablement qui il est. On va lui proposer d'une certaine manière un certain nombre d'identités, voilà, comme on propose éventuellement des costumes dans un magasin. On va essayer de voir si le costume tombe bien, etc. Mais en vérité, ce qui est important, c'est moins l'identité réelle que le soldat pouvait avoir avant la guerre qu'une identité dans laquelle il pourrait vivre bien après cette guerre. Et donc, ce n'est pas un problème d'identité au sens du nom, au sens de l'histoire, au sens de ce qui pouvait l'enraciner dans le passé. C'est plutôt une identité au sens de ben voilà, là où il va pouvoir...
Aujourd'hui, en fait, qui appartient, voilà. À quel monde appartient-il finalement,
ouais. Ben en plus, on peut supposer qu'une identité, même très forte, après 4 ans de guerre, est quand même assez fortement détruite. Et donc, en réalité, le problème de l'identité se pose d'une manière un peu différente et se pose typiquement sous l'angle de « après tout, l'identité, c'est peut-être l'endroit où je vais me sentir bien ».
Je lis un extrait. Le toubib fait signe à l'infirmière de déshabiller le pauvret qui n'a toujours pas moufté. C'est que le fakir est somnolent, retourné comme une peau de bête, les yeux en dedans. Glisser le stéthoscope dans ces conditions, c'est une gageure. La poitrine se dérobe, une veine sous l'aiguille. Alors j'ai pris vraiment un passage au hasard là, mais j'aurais pu prendre n'importe lequel. On retrouve des mots comme bougre, beaucoup, kleps, gnôle. Il y a du Céline, très ouais. Directement, un hommage à Céline. Alors en tout cas, au voyage, au bout de la nuit...
Oui, il y a quelque chose dans la langue de Céline qui renvoie à ce mélange entre un français, en fait, fondamentalement aux structures assez classiques, mais en empruntant à des registres assez différents, qui me fascine tout à fait. En fait, Céline et Giono étaient sans doute les deux auteurs que j'avais le plus en tête, qui accompagnaient en fait mon écriture.
Parce que ça se passait pendant la Première Guerre mondiale, comme Le voyage au bout de la nuit?
Oui, pas seulement. C'est aussi parce que dans l'absolu, ce sont incontestablement des styles auxquels je suis personnellement sensible, qui peuvent s'appliquer en fait à bien entendu d'autres registres que celui de la guerre. Il se trouve que là, particulièrement...
Mais qui appartiennent à une époque aussi.
Alors qui sont extrêmement datés, on peut le dire, oui. Et qui, dans les deux cas, en fait, fonctionnent assez bien. D'abord parce que Céline a écrit sur la guerre de 14-18, comme vient encore d'en attester la publication récente de guerre, mais... Giono a publié par exemple Le Grand Troupeau, qui est un des livres les plus magnifiques sur la guerre de 14-18. Donc il y avait une sorte d'environnement littéraire comme ça, dans lequel je baignais pendant que j'étais en train d'écrire le livre.
Et justement, vous aviez sur votre bureau des livres de Céline et Giono pour vous remettre dans le ton de temps en temps, vous réaccorder ?
Oui, j'avais autour de moi un certain nombre d'éléments, et ceux-là en particulier, puis d'autres aussi. Il y a quelques nouvelles de Huysmans dans lesquelles il décrit sa propre expérience dans un hôpital militaire. Enfin bon, un certain nombre d'éléments comme ça de littéraire qui m'entourent et qui font partie, oui, des espèces de je sais pas, des murs dans lesquels je m'abrite pendant que je travaille. Je m'isole en fait à l'intérieur de cette espèce de camisole littéraire.
Je dis Céline, mais c'est un peu Céline sur un divan quand on vous lit, parce que il y a Freud qui pointe un peu très 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 rapidement son nez dans le livre, mais surtout vous avez travaillé avec Pontalis. C'est quoi votre rapport à la psychanalyse?
Alors, j'ai un rapport au départ, on va dire amical à la psychanalyse par l'intermédiaire donc, de J.B. Pontalis, dont effectivement j'étais très proche. Après, je n'ai pas d'intérêt spécifique sur la psychanalyse. Ce qui est clair, c'est que ce qui était très amusant, même, c'est, enfin, entre guillemets, c'est qu'au moment de la guerre, après la guerre de 14-18, dans la psychiatrie militaire, les militaires sont en avance par rapport à la psychiatrie civile. C'est-à-dire qu'en fait, les médecins militaires vont déjà aller chercher du côté de ce type de protocole que peut proposer éventuellement l'analyse pour permettre à un certain nombre de gens qui ont été choqués de retrouver l'origine de ce choc et de voir dans quelle mesure ça peut être traité à partir du moment où c'est verbalisé. Donc ça, ça fait partie des éléments, et il y a un moment, je cite un article scientifique en fait, qui existe dans la littérature, et où on voit donc un médecin militaire proposer en fait une méthode directement issue en fait de ce qu'un autre médecin autrichien est en train de faire ailleurs. Donc voilà, donc il y a un rapport à la psychanalyse. Alors effectivement, j'ai une sensibilité parce que j'en ai lu pas mal via évidemment J.B. Pontalis. Maintenant, je suis pas allé au-delà. Il y a un moment donné, en rigolant, Miloš dit qu'il souhaite presque être le Pinel de la psychiatrie militaire. Pinel étant cette espèce de grand ancien de la psychiatrie et de la psychanalyse. Donc voilà, mais ça va pas au-delà. Néanmoins,
il y a un personnage qui dit il faudrait peut-être aller voir du côté de Freud là ou je sais pas quoi.
Oui, voilà.
À l'époque, c'est n'importe quoi.
À l'époque, c'est pas pris très au sérieux. Il y a une espèce de mélange philosophico-politique qui est un peu bizarre. Donc les médecins sont le milieu médical est extrêmement réticent à l'égard de la psychanalyse. Et Miloš, pour un certain nombre de raisons, sans doute aussi culturelles, en fait, se sent assez proche de cette démarche et pense qu'elle peut donner quelque chose quand on est face à un mur, comme on peut l'être avec ce soldat qui ne se souvient quasiment de rien.
Il y a beaucoup de travail sur la forme. Il y a des articles de journaux, il y a des rapports militaires, rapports médicaux. Vous êtes un rat d'archives, c'est-à-dire que vous partagez l'écriture et la quête d'archives et de documents, ou c'est l'un après l'autre ?
Non, je passe beaucoup de temps. Alors, j'ai un projet, c'est-à-dire qu'en gros, je sais qu'à cet endroit-là, j'ai envie de mettre ça. Donc, par exemple, un rapport médical militaire, etc. Donc, je vais à ce moment-là chercher de la nourriture pour voir comment c'est fait, comment c'est rédigé, quel est le type de vocabulaire qu'on utilise. Ça va jusqu'à, je ne sais pas, la longueur des phrases, la syntaxe, etc. Il y a des syntaxes assez particulières, tant du point de vue de la presse, par exemple. Et c'est un petit plaisir d'écrivain que de s'amuser à écrire comme tel journal à telle époque ou telle revue de philosophie à telle autre, etc. Donc voilà, donc il y a tout ça, c'est des petits artifices, mais qui permettent néanmoins de rendre compte de l'espèce de grand bouleversement social qui a pu être quand même. Ça a été Anthelme Mangin, puisqu'en fait c'est tiré quand même en partie de l'histoire d'Anthelme Mangin, a été une affaire qui a mobilisé très au-delà du simple personnel médical d'un hôpital militaire. Ça a été les journalistes, le monde culturel, tout le monde se saisissait un petit peu de cette affaire.
Et c'est quoi votre discipline d'écriture ? Est-ce que vous avez des horaires très précis ou pas ?
Ah si, je suis complètement maniaque. En fait, c'est même terrible en fait. Je travaille la nuit.
Des tocs carrément ?
Ah pas loin. Pas loin, je travaille la nuit et tous les jours à partir de 11h30. Et en gros, je m'arrête vers 2h.
23h30, 2h du matin, tous
en
les
gros,
jours
tous les jours. Et j'ai un rituel, c'est-à-dire qu'en gros, je passe la première heure à retravailler ce que j'ai fait la veille. Et puis simplement, ensuite, j'avance. Donc voilà, c'est totalement ritualisé.
Mais donc, c'est vif, parce que vous avez une heure et demie d'écriture pure, quoi.
Ouais, exactement. J'ai une heure de retravail, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup retravailler, mais j'ai un côté très artisan pour ça. Et puis après, une heure et demie où j'avance, où je fais avancer le texte.
Donc vous corrigez en fait en même temps que vous écrivez,
ouais,
d'une certaine manière.
Ouais,
c'est pas vous écrivez d'un trait, puis ensuite vous revenez au début.
Non, je suis incapable de faire des premiers jets.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, le retour. Toujours avec Antoine Billot pour son Soldat Ulysse chez Gallimard, lauréat du prix européen GMF. Vous le connaissez peut-être, c'est un collègue romancier, Pierre Assouline, vient de publier Le Paquebot. Le Paquebot, c'est le Georges Philippard sur lequel Albert Londres notamment a trouvé la mort en 1932. Et croisière faisant, le roman traverse aussi ce moment de l'histoire ô combien particulier. On a parfois reçu Pierre Assouline pour ses romans ou pour nous parler du Goncourt. C'était l'occasion cette fois de voir de quel livre il se chauffe. Allons-y.
Bonjour Pierre Assouline.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous. Je m'attendais à voir des gigantesques montagnes de livres. Là, on est dans l'entrée. Oui, il y a une petite bibliothèque ici, puis j'en vois un peu dans le salon. Mais ce n'est pas la colline que j'attendais.
Pour une colline, il faut d'abord avoir un espace pour abriter la colline. Et ici, ce n'est pas une vallée, c'est un petit appartement. Donc, ceci explique cela.
D'accord, mais vous avez d'autres livres, j'imagine.
Oui, ailleurs.
Ailleurs d'accord, ici. D'accord.
Et pour rien vous cacher, il y en a une partie, ce sont des biographies qui sont chez ma maman. Et une autre partie, qui sont des livres dont je n'ai pas besoin tout le temps, qui sont chez mon ex, qui les trouve décoratifs. Et puis moi, j'ai pris, d'une part, des livres que j'aime énormément, mais surtout des livres auxquels j'ai très souvent recours, en fait tout le temps, d'une part par goût, et surtout pour mon travail, puisque étant à la fois critique, journaliste littéraire, écrivain et membre d'un jury, je suis tout le temps en train de chercher quelque chose.
Mais justement, en fait, c'est pour ça que je m'attendais à avoir énormément de livres, mais j'imagine que vous avez mis au point une sorte de méthode pour vous débarrasser des livres au fur et à mesure, quoi, pour ne pas être envahi.
Ah oui, de toute façon, alors moi je donne les livres que je reçois, j'en garde une toute petite partie, ceux avec lesquels j'ai l'intention de travailler. Ce sont rarement les romans, très rarement, mais je les mets sur mon palier.
Oui, on les a vus en montant.
Et alors, c'est destiné à tous les gens de l'immeuble. Ils le savent depuis le temps, ils savent comment ça marche. Ils prennent ce qu'ils veulent et ils le gardent, bien entendu. Parce que la plupart, au début, me disent « Ah bon, mais après, on vous le rend ?» Non, surtout pas. Donc, vous le gardez. Pendant longtemps, j'en ai donné à la bibliothèque de l'hôpital Georges Pompidou, à la fois pour les soignants et pour les malades. Mais la personne très gentille, qui était un chirurgien et qui venait les prendre, s'occupait de la logistique, a pris sa retraite. Donc,
ça n'a pas suivi.
Et sinon, tous ceux qui passent ici, mes amis, les autres. Si vous voulez des livres, à mon avis, Nicolas, vous n'en manquez pas.
J'ai le même problème ou la même chance, plutôt. Mais les voisins, ils laissent une bouteille de vin quand ils prennent un livre ou du troc, un peu.
Il y a une voisine adorable qui m'offre deux ou trois bouteilles de vin à la fin de l'année pour Noël.
J'étais sûr.
Et parce que c'est vrai qu'elle en prend beaucoup et même d'ailleurs, je peux le dire en confidence, quand j'ai un gros arrivage de livres que je ne vais pas utiliser, une fois que les prix sont passés et tout ça, je lui dis de monter et elle choisit ce qu'elle veut.
Et alors juste derrière, il y a des très beaux livres, une collection de livres anciens en fait. Et d'où ils viennent-ils? Est-ce que vous êtes collectionneur, bibliophile?
Non, je ne suis pas collectionneur du tout, mais entre 18 et 23 ans, j'ai été bibliophile. Et avec mes faibles moyens, j'achetais des choses parfois pas chères du tout. Pas dans des ventes, mais chez des bouquinistes où je les échangeais avec des amis. Alors ça, c'est pas terrible.
C'est le souvenir d'un bourreau de Paris.
Oui, non. Par exemple, vous voyez, Paul Morand, Rococo sur papier Japon numéro 2. Ça, c'est une merveille absolue. Il y a Dugide, il y a Henri Béraud, il y a encore Paul Morand. Il y a de belles choses. Hein.
Mais vous les compulsez, ces livres-là, ou alors vous
parfois,
les laissez
oui.
là
pour... Non, je les garde parce que c'est un souvenir de jeunesse et j'y suis attaché, presque de manière sensuelle. Et voilà, ça me rappelle ma jeunesse, voilà, je peux le dire ainsi. Et puis, de temps en temps, j'ai un grand plaisir à les ouvrir. Mauriac, par exemple, ou Stendhal, Souvenir d'égotisme. Ça, c'est des choses qui ça me fait plaisir de les retrouver. J'aime bien m'installer avec un beau papier et relire tel ou tel livre. Ouais, ça me replonge dans une époque.
Vous n'êtes pas fétichiste des livres, mais là, je ne l'ai pas dit, on est dans la petite entrée de l'appartement en étoile, c'est-à-dire une sorte de petit couloir de 3 mètres de long, mais il y a plein de souvenirs du passé, hein, des objets un peu hétéroclites. Il y a comme ça une pancarte en cuivre, un petit porte-clés, une corne. J'ai l'impression que c'est plein de souvenirs ou de voyage ou de vie, mais
c'est vrai, on peut en avoir quelques-uns. Des petites choses. C'est une plaque offerte par le roi d'Espagne quand j'ai demandé la nationalité espagnole il n'y a pas longtemps.
Pourquoi?
Parce qu'elle était proposée, j'en ai fait tout un livre. Elle est belle, hein? Elle a été proposée aux séfarades expulsés d'Espagne il y a 5 siècles. Et donc, j'ai fait la demande. Ça a pris 5 ans de tracas administratifs, mais je l'ai eu. Et puis, il m'a offert ça très gentiment. Et puis, il m'a envoyé un petit mot. Ça me fait plaisir. Voilà, il y a des choses comme ça. Vous voyez, c'est des souvenirs personnels. Ça, c'est une casquette d'étudiant de l'université de Vilnius. Parce que j'avais fait une conférence là-bas.
Ah,
Pour me remercier, il m'avait offert la casquette. Parce qu'il fut une époque où tous les étudiants portaient la casquette. Ils étaient obligés. D'ailleurs, je l'ai sur ma tête. Et j'ai vraiment l'air d'un étudiant lituanien du début du XXe siècle.
Ouais, ou d'un type qui joue du tuba dans la fanfare, vous savez.
Oui, non, ça c'est moins bien. Ça me plaît moins.
Une casquette à visière courte. Et ça, c'est quoi ?
Alors ça, c'est la plaque du magasin de mon grand-père à Oran, du temps de l'Algérie française, et ensuite du magasin de mon père à Casablanca, où je suis né, quand le Maroc était français. C'est drôle parce que ce sont deux souvenirs du Maghreb du temps des colonies, alors que la plaque est en arabe.
Ah, c'est ça. Et donc, ça veut dire, qu'est-ce qui est
marqué inscrit ? Jacques Assouline.
D'accord.
C'est le nom de mon grand-père.
Magnifique. Dans le salon, il y a quelques livres aussi. Et un fauteuil en carton, d'ailleurs.
Il y a une histoire. Il est très solide. Très, oui. Très solide. Il se monte entièrement en carton, vous voyez, avec, grâce à cette chose sur le côté. Il y a environ 25-30 ans, avec Bernard Pivot, d'organiser chaque année la dictée avec France 2. C'était un événement énorme. Ouais. Et une fois, en clôture de la dictée, moi, en tant que magazine Lire, et lui, en tant que l'homme de la dictée, ont été invités à faire une émission. Et on s'est retrouvés assis, chacun dans un fauteuil comme ça, en carton, qui venait à peine d'être créé. Et ça nous avait vraiment quand même feinté. On craignait de les casser, mais ouais, pas du tout. Et on a fait des compliments à France Télévisions en disant ouais, ils sont magnifiques, vos fauteuils en carton. Et le lendemain, à mon bureau, on me l'avait fait déposer, et Bernard aussi.
Ouais, mais ça c'est des astuces.
Ça fait 30 ans que c'est là.
D'ailleurs, je ne veux pas être polémique, mais c'est vrai qu'il y a souvent des écrivains qui participent à ces dictées. Alors qu'en fait, si on réfléchit bien, l'orthographe, ça n'a pas grand-chose à voir avec la littérature, si ?
Bon, ben, un petit peu, parce qu'il faut de l'orthographe pour écrire. En même temps, vous pouvez très bien faire des fautes. De toute façon, il y a des correcteurs dans les maisons d'édition. Donc, ce n'est pas indispensable. Mais enfin, ça fait partie de la chose, quand même. L'orthographe a partie liée avec la lecture. Donc, oui, tout de même.
Oui, non, mais je ne sais pas. Moi, je me suis toujours étonné, parce que je me dis, après tout... C'est un truc de technique, de correcteur, savez, c'est pas grave l'orthographe.
Si vous regardez les lettres des grands écrivains, vous seriez étonné.
Voilà, c'est pour ça.
Bon, il y en a plein qui sont bourrés de fautes.
Ça n'empêche pas d'être un génie littéraire.
Non.
Même si on est un mauvais en orthographe.
Peut-être même que ça peut être un révélateur.
Voilà. Et derrière vous, il y a toute une collection aussi de livres anciens.
Oui, enfin, ils ne sont pas anciens, ils ne valent pas un clou.
Enfin, c'est quoi pas, c'est
mais ils sont anciens si on regarde les. Oui, c'est des choses que j'ai achetées chez les bouquinistes autrefois. Qui ne valent rien sur le plan, ça vaut rien sur le plan bibliophilique. Et donc c'est que des éditions de l'époque, c'est très jauni, il y a beaucoup de NRF, mais c'est des livres qu'on ne trouve plus et avec dont je me sers pour des tas de. Alors vous avez par exemple des livres d'entretien. J'aime bien les livres d'entretien d'écrivains, Bernanos, Schlumberger, Apollinaire, Mauriac, Nabokov, André Beauclair. Voilà les souvenirs d'André Beauclair. Ça ne se trouve plus, Emmanuel Berle.
Je me suis laissé dire qu'il y avait aussi des livres dans le bureau à côté.
Alors oui,
donc la pièce qui est sur le palier. Enfin, attendez, qu'est-ce que c'est ça ?
Ah ça ?
Alors, c'est là, Ulysse, mais une vieille édition de James Joyce.
C'est une édition originale de Joyce, de Ulysse, mais elle n'est pas. C'est vraiment l'édition de l'époque que j'ai trouvée au puce ou je sais pas chez les bouquinistes. On ne saura pas grand-chose, mais qui a bien vécu, mais que j'aime beaucoup. Et puis ça. C'est les dessins de Goya, une exposition qui a eu lieu à Madrid. Et ça, j'en suis très content. C'est des photos magnifiques d'un livre qu'on ne trouve plus du tout, de Cartier-Bresson sur les Européens. Et dans une librairie à Grignan, où je faisais une conférence, j'ai vu ça, j'ai sauté dessus.
Alors, dans les 250 bibliothèques que j'ai visitées, peut-être dans 200 d'entre elles, j'ai trouvé Ulysse, mais le propriétaire s'empressait de me dire souvent... J'ai commencé, mais je n'ai pas réussi à le finir.
C'est un livre exceptionnel.
Je sais, mais vous connaissez sa réputation. Parce que c'est
ah non, mais ce n'est pas Ulysse qui est difficile, à mon avis. Hein. C'est Fahlinger's Wake. Fahlinger's Wake de James Joyce. Ça, je ne peux pas lire deux pages. D'abord parce que c'est une langue qui mélange le celte, le vieil allemand. Enfin bon. Non,
Ulysse. Non, mais c'est un fait. Ulysse, comment vous expliquez ça ? Pourquoi on ne s'accroche pas ? Pourquoi on ne va pas au bout ?
Ah ben, j'en connais beaucoup qui ont été au bout très souvent. Mais je dois dire qu'il y a quelque chose qui aide à mieux comprendre Ulysse, c'est de boire du whisky irlandais. Alors là, si vous faites ça, surtout au mois de juin, parce qu'au mois de juin, on fête la déambulation de Leopold Bloom dans Dublin chaque année. Et j'ai été déjà à l'ambassade d'Irlande pour le fêter avec une dégustation de 18 whiskies irlandais différents. Ah, je peux vous assurer qu'on comprend tout d'un coup.
Ça aide à être mieux dans la tête du narrateur, parce qu'il faut expliquer que c'est du, ce qu'on appelle du flux de conscience. Quoi. C'est des idées qui s'entrechoquent comme ça. C'est pas une littérature très linéaire. Quoi.
C'est une poésie. Hein. C'est une poésie magnifique.
Vous l'avez rencontré à quelle époque, Ulysse de Joyce ?
Oh, tardivement. Moi, vous savez, je ne suis pas du genre à vous dire qu'à 5 ans, j'avais dû lâcher du temps perdu. Hein. Pas du tout. Moi, c'était le club des 5. Et donc, non, c'était tard, Ulysse.
C'est venu quand la petite lecture ?
Tout jeune, très jeune, mais pour lire des choses de mon âge.
D'accord.
Oui, mais c'est la curiosité. Immense curiosité qui continue aujourd'hui. Et mon seul problème, c'est de trouver le temps de lire toutes les choses qui m'intéressent. Puisque comme vous, j'ai la chance de recevoir énormément de choses. Il faut faire le tri et il y a des priorités. Mais comme je lis tout le temps, donc on y arrive plus ou moins. Mais...
Ben, je suis curieux aussi de voir ce qu'il y a dans votre bureau.
Ah ben venez, alors c'est la pièce mitoyenne. Hein. J'aurais pu faire un trou, mais je préfère.
Oui, mais alors il faut quand même repasser par le palier, c'est la porte d'à côté.
Oui, c'est un petit studio, mais j'y vais tout le temps.
C'est pas mal parce que ça vous donne l'impression quand même d'aller au travail.
Oui,
si c'est votre bureau.
Exactement.
Ça vous met dans un état d'esprit particulier.
Il y a un peu de ça, mais vous savez, je n'écris pas mes livres ici. Hein.
C'est
que pour les articles.
D'accord.
C'est le territoire du journalisme.
Vous écrivez sur le fauteuil les livres
Là les livres, non. Je les écris. Quand je décide d'écrire un livre, je pars.
Ah.
Je quitte Paris et je vais soit à Aix, soit à Nice, soit dans la montagne en Suisse. Et là-bas, on me prête quelque chose et je m'isole. C'est trois endroits où on me prête quelque chose. Parfois aussi à l'abbaye d'Ardennes, près de Caen. Voilà, c'est les lieux où j'écris des livres.
Et vous êtes du genre à procrastiner, même isolé là-bas, vous allez flâner en faisant
je suis
pas.
Très organisé.
D'accord.
Et tout est très très organisé.
Et vous vous levez très tôt et vous travaillez jusque tard ou
Je me lève très tôt et je travaille 3 heures. Je vais marcher ou nager et je travaille 3 heures. Je vais marcher et je travaille 3 heures. Tout ça jusqu'à. Et le soir, c'est consacré exclusivement à regarder des séries.
Ah oui ?
Oui.
Vous êtes un fan de séries ?
Je suis fan et c'est pour ce que je ne peux pas lire. Il y a un moment où il faut arrêter de lire. Donc il y a saturation et donc je regarde des séries qui me nourrissent énormément. Le héros, le narrateur de mon dernier roman, Le Paquebot, s'appelle Jacques-Marie Bauer.
Ah, comme Jack Bauer.
Ça me vient de Jack Bauer, parce que j'ai redécouvert 24 heures chrono pendant que j'écrivais mon livre.
Et c'est quoi la série qui vous a marqué dernièrement, à part 24 heures chrono ?
Il y en a beaucoup. Hein. Là, je suis en train d'en regarder une qui est pas mal, Défense Lincoln.
La Défense Lincoln,
oui.
L'adaptation de Michael Connelly.
Oui. C'est pas mal. J'ai beaucoup aimé Fauda, mais surtout, tout récemment, Ozark. Dernière saison d'Ozark, chapeau. Hein. Moi, je suis admiratif de l'imagination créatrice des scénaristes des séries.
Alors, je ne l'ai pas décrit, mais on est dans une petite pièce.
Studio. Hein.
Voilà, c'est un studio avec une grande bibliothèque dès l'entrée, puis une autre grande bibliothèque, même trois, et puis juste derrière encore tout un mur de livres, et puis il y a un bureau en L. Un bureau, un très joli bureau, sobre. Il vient d'où ce bureau ?
Il est à qui ?
Ouais.
Il est à moi.
Mais c'est pas ça.
C'était un bureau qu'on l'a fait faire sur mesure.
D'accord.
Autrefois et qui se démonte par un menuisier. Et quand je déménage, je l'emmène.
Et alors, toute une série de dictionnaires aussi.
Oui, c'est indispensable parce que je vérifie tout le temps.
Même maintenant, avec Internet et tout ?
Oui, quand même, parce que c'est indispensable. Et puis, il y a, vous voyez, il y a des dictionnaires un peu rares. Moi, il y a le Gaffio. Ça, c'est parce que ma compagne est prof de latin et de grec. Donc, il y a le Gaffio, dictionnaire de grec. Pour moi, c'est surtout le Robert et surtout, indispensable.
Les synonymes ?
Le dictionnaire des synonymes, qui est une merveille.
Mais à utiliser avec modération, parce que ça peut être dangereux quand on voit que l'auteur a mis un synonyme pour éviter de remettre le même mot.
Ben oui,
parfois, ça peut se voir.
Il ne faut pas que ça se voit.
Ouais.
Justement.
C'est tout l'art.
Ah ben oui.
Et alors, il y a des Pléiades, là
Oui, alors c'est
les anthologies.
Ce sont que des anthologies bilingues de la poésie. Donc de la poésie italienne, de la poésie espagnole, allemande. Parce que j'aime la poésie et de les avoir pour les différents domaine linguistique en édition bilingue, ça...
Mais elles sont à main gauche sur votre bureau, comme si c'était des outils pour votre écriture, même si vous n'écrivez pas là, on a compris.
Si, ça sert. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi je les ai mis là, mais ça me paraissait bien.
Et je n'ai pas dit encore, mais il y a beaucoup de portraits au mur, et notamment, enfin de photos, et notamment une photo de Beckett qu'on reconnaît grâce à sa coiffure si particulière. Et il a le visage dans la main, a une cigarette dans la main gauche. On a l'impression qu'il pleure ou qu'il se prend la tête. On connaît l'histoire de cette photo ?
Oh elle a rien d'extraordinaire. Hein. C'est chez aux éditions de Minuit. Et il devait soit réfléchir, soit il a vu le photographe arriver et il s'est... ça c'est bien
là,
son genre.
Je préfère cette histoire-là.
C'est bien son genre. Ça, c'est une photo magnifique donc, d'une bibliothèque complètement effondrée. Et c'est avec des lecteurs qui cherchent un livre alors que tout est par terre, en feu, etc. Ils le font avec beaucoup de flegme.
Ils ont l'air de flâner.
Et bien entendu, c'est à Londres, pendant le Blitzkrieg, à la National Library.
Je vois une chambre à soi de Virginia Woolf. Enfin, d'ailleurs, c'est la traduction « Un lieu à soi ».
J'ai mis les deux.
Ah oui, à côté. Ah ben effectivement.
C'est le même livre. C'est « Un lieu à soi », c'est Marie Dariussec qui l'a traduit ainsi. Et « Une chambre à soi », c'est le même livre, hein, mais traduit comme ça il y a très longtemps.
Alors, est-ce que c'est le même livre ?
Ah oui, c'est le même livre. Mais évidemment, dès lors que le traducteur est différent, ce ne sont pas les mêmes mots. Il ne faut jamais oublier quand vous lisez un livre traduit d'une langue étrangère, pas un mot n'est de l'auteur. Ils sont tous du traducteur, par principe. On oublie ça. Donc, ce sont des co-auteurs. Et souvent, ils impriment leur marque dès le titre. C'est le cas. Moi, je suis un fan de Virginia Woolf. Donc, ça me plaît d'avoir ces deux traductions. Donc, si je me réfère pour un article ou un travail à ce texte, ben, je prends les deux. Et j'essaie de voir quels sont les mots les plus appropriés pour citer.
Mais je disais ça parce que... On est, j'ai l'impression, dans votre lieu à vous ici, quoi. Ça fait très caverne avec tous les livres autour, sanctuaire comme ça.
Oui, il y a de ça, bien sûr.
Il faut qu'on parle de Beckett aussi parce qu'on a vu une photo en arrivant de Beckett lui-même. Et là, on a toute la collecte aux éditions de Minuit. C'est quoi votre rapport à Beckett ? Vous l'avez rencontré ?
Non, on s'est écrit.
D'accord.
Malheureusement, il donnait pas d'interview et je devais faire un très grand papier pour lire sur sa vie, son œuvre, pour son anniversaire. Et je savais qu'il ne donnait pas d'interview, donc je lui ai écrit en lui disant « Je ne veux pas d'interview, mais je veux jouer aux échecs avec vous pour savoir qui vous êtes, vraiment. » Et il m'a dit « J'aimerais tant, mais je ne vois plus. » Il devenait aveugle, il est mort peu après. Et en fait, il m'a dit « Je fais des problèmes d'échecs tout seul, mais je ne peux pas engager le fer avec quelqu'un parce que je vois plus clair. »
Ah, ça aurait été magnifique, ouais.
J'aurais adoré faire
ça. C'est
une
bonne idée. Même s'il ne faut peut-être pas toujours rencontrer les écrivains qu'on admire, si.
Ah oui, mais là, on n'aurait pas parlé. Hein. C'était un
Oui, justement, c'est une bonne solution.
Ah, ça aurait été formidable.
Mais de manière générale, est-ce que vous avez été déçu parfois ?
Tous les écrivains ne gagnent pas à être connus. Voilà. Parfois, vaut mieux
on
garder
qu'il y a
ses
du vécu,
distances.
Mais j'aurais l'élégance de on ne pas vous interroger
je donnerai pas de nom. Mais on peut être très déçu par des écrivains.
Beckett est encore là, dans la salle à manger.
Alors, là, il y a encore du Beckett, c'est des photos de Richard Avedon.
Ah, il y a toute une bibliothèque de Pléiade.
Et c'est ça que je voulais vous montrer. Bon, attendez, avant de montrer la Pléiade, là, vous avez tout Simenon, tout ça.
Ah oui.
Tout
ah
ça, là c'est là. Simenon. Deux et sur Simenon, parce que j'écris tout le temps sur Simenon. Tout ça, c'est Cartier-Bresson, parce que je vais régulièrement sur lui. Et en bas, c'est sur Céline.
La bibliothèque de la Pléiade, effectivement, il y a des gens qui s'en servent pour les avoir là, et comme une sorte de conservatoire, et qui les lisent en version poche. Dans la Pléiade, il y a aussi un appareil critique très important. Vous avez déjà participé ?
Participé jamais. Je ne crois pas, non. Je crois que j'ai des... La Pléiade Gracq, il me semble bien qu'il y a une interview que j'ai faite de Gracq. Ou un article, je ne suis pas sûr. Non, j'ai jamais participé. C'est un travail universitaire très sérieux, très pointu.
Mais alors, sauf cet appareil critique, quel est le grand intérêt de la Pléiade ?
C'est déjà énorme, hein, l'appareil critique. Ça suffit. Et puis, ça réunit en un volume 5 ou 6 livres. Vous savez, la Pléiade, le point de départ de l'invention de la Pléiade, c'est d'en faire une œuvre de poche, pratique. Ce n'est pas luxueux au départ, c'est pratique. Quand c'est sorti, dans les années 30, c'était impensable d'avoir 4 romans sous une même couverture. Impensable. Et grâce au papier Bible, on y arrive.
Et vous, vous n'êtes pas gêné par la finesse du papier Bible ?
Pas du tout. Comme disait Antoine Blondin, c'est très pratique. Quand je lis une page, j'en lis cinq en même temps. Ça va plus vite.
Et vous stabilotez, vous notez ou pas ?
Si quelqu'un stabilote ma pléiade, je l'exécute.
D'accord.
Non, les livres normaux, je les stabilote, je les tords, je les déchire, même en public, pour arracher des pages quand elles me plaisent. Ah oui, ça, je m'en fous. Les livres, c'est un outil de travail. Mais la pléiade, il y a quelque chose de religieux, de sacré. C'est autre chose. Et vous voyez, en plus, comme vous remarquez, il y a quelques couvertures blanches.
Très étonnant.
C'était les couvertures des années 60.
Parce que d'habitude, il y a un coffret cartonné et puis la couverture en elle-même, elle est unie.
Dans les années 50-60, c'était ça. Et pourquoi j'ai ça ? Et parce que ce sont mes cadeaux de communion.
Ah.
Voilà, on m'a offert, différentes personnes m'ont offert des pléiades pour ma communion.
Donc, et les histoires extraordinaires d'Alan Poe, Victor Hugo,
Molière,
Voltaire, Camus, Victor Hugo, Tolstoï, Molière, ouais. Marivaux. Et elles sont tous la couverture bien visible, celle-là. Vous, ils sont rangés par ordre alphabétique ?
Oui. Oui. Ah oui, il faut que je puisse les trouver.
Bah, le problème, c'est pour en rajouter ensuite, quoi.
Bah, on poussera les murs.
Par exemple, quand il y a Jean d'Ormesson qui arrive, par exemple, il faut lui trouver une place.
Ça, c'est peut-être pas indispensable. Je ne vois pas travailler sur les romans de Jean d'Ormesson, que j'aimais beaucoup par ailleurs, mais ça ne sera pas un outil de travail pour
moi. Vous ne visez pas à l'exhaustivité de la collection pour la pléiade ?
Non, je ne suis pas collectionneur. Mais je sais que là, il y a tout ce dont j'ai besoin.
Qu'est-ce que c'est, ça ?
Ça, c'est quand je faisais de l'aviron.
C'est juste au-dessous de la bibliothèque. Deux rames.
Oui, c'est deux rames, pas d'aviron, de kayak. Trouvé chez un antiquaire anglais, à Londres. Et écoutez, il y a ça aussi, là-haut.
Oh.
Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une pelle ou un aviron.
Un aviron,
surtout pas une rame. Et c'est marqué aux couleurs de Oxford et Cambridge. Et puis, il y a quelques cadavres de raquettes, de jeux de paume, parce que je joue au jeu de paume.
Vous jouez au jeu de paume ?
Oui.
Mais où est-ce qu'on trouve des terrains de jeux de paume ?
À Paris, il n'y en a qu'un, à Paris. Rue Lauriston, dans un club de squash. Sinon, il y en a un peu à Bordeaux et à Fontainebleau, dans le château. Et c'est des raquettes que j'ai explosées en jouant, parce que parfois, ça...
Et quelle est la différence avec le squash ou le tennis ?
Ah, c'est tout à fait autre chose. C'est l'ancêtre de tous les jeux de raquettes. Ça se joue dans une salle avec des murs, qui est comme la fameuse salle du jeu de paume, avec un filet. Mais on peut se servir des murs pour faire rebondir la balle, qui elle-même est très lourde. Il faudrait venir voir un jour.
Et quand il y a des joueurs qui attendent leur tour, vous leur dites « je ne sortirai d'ici ».
Non.
Par la force des baïonnettes ?
Non, la force des baïonnettes, ça ne vient pas de là. Mais en revanche, il y a un vocabulaire qui vient du jeu de paume. C'est qui va à la chasse perd sa place.
Ah bon ?
Oui. Et c'est...
Parce qu'aller à la chasse au jeu de paume, ça veut dire quoi ?
Parce que la chasse, c'est les numéros qu'il y a par terre, sur le court, qui servent à compter les points.
Et puis, il y a toute la collection des quartos qui a aussi un peu la même fonction de...
Mais c'est la pléiade du pauvre.
Mais peut-être en plus agréable à lire pour certains, parce qu'elle est plus large.
Oui,
moins légère.
Oui, elle est moins chère. Mais il n'y a pas vraiment un appareil critique. Mais en revanche, il y a une sorte d'album à l'intérieur avec des photos, une chronologie. C'est assez pratique pour travailler.
Ah tiens, vous avez un tableau avec la devise « un pour tous, tous pour un ».
Ah, ça, c'est mon côté anglais.
Qui est la devise inversée des mousquetaires, en fait, qui est tous pour un, pour
Suisse.
Tous. C'est la devise suisse, d'un canton suisse.
Au marché aux puces à Lausanne.
Et c'est là que Dumas l'a trouvé, d'ailleurs, sauf qu'il a inversé.
Oui.
Ah, c'est magnifique, ça.
C'est pas mal, hein.
Mais c'est très étrange, ça. Dans les trois mousquetaires, c'est tous pour un pour tous. Mais pour tout le monde, aujourd'hui, on dit un pour tous, tous pour un.
Ah oui.
Malgré Dumas. Et ça s'est inversé par la force de l'habitude, ou peut-être par la devise suisse d'ailleurs, mais c'est étonnant ça, comment on se réapproprie l'œuvre en fait.
Oui, c'est curieux.
Et vous avez une autre devise en dessous, Dieu est mon droit. Vous aimez les devises ou c'est un hasard ?
Non, c'est le hasard, et ça c'est une sorte de tapisserie sur les armoiries évidemment de la famille royale anglaise. Ouais, il me manque plus que Onisoy qui mal y pense.
De l'ordre de la jarretière.
Ça complétera le tableau.
Merci beaucoup, Pierre Assouline.
Merci, Nicolas Caro.
À bientôt.
Au revoir.
Retour en studio et je rappelle Le Paquebot. C'est le nouveau roman de Pierre Assouline. Antoine Billot est toujours avec nous pour Le Soldat Ulysse. Comment vous les rangez, vous, vos livres ?
C'est très compliqué. En fait, c'est un fouillis inextricable, un chaos total. Alors, il y a des zones de ce chaos que je connais un peu mieux, donc dans lesquelles j'arrive à me retrouver. Mais sinon, si je suis tout à fait honnête, il m'arrive même de racheter des livres parce que je ne les retrouve pas.
Mais vous savez qu'ils sont
je
là,
sais qu'ils
mais
sont là,
trop long.
Je sais que je les ai lus, je sais qu'ils sont quelque part, mais au bout d'un moment, c'est plus simple de les racheter.
Et pourquoi vous ne classez pas par ordre alphabétique et
Alors,
tout ça ?
C'est une question qu'on me pose régulièrement. En fait, le problème, c'est que j'ai pas mal de livres et donc mes étagères en fait, sont pleines. Et donc, quand j'achète des livres nouveaux...
Vous ne pouvez pas intercaler ?
Bah non. Et donc, bah, je les mets ailleurs et donc le chaos s'organise ainsi.
Je vois bien, je vois bien.
La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est livre avec Antoine Billot, lauréat du prix européen GMF pour Le Soldat Ulysse chez Gallimard. On trouvera ce livre, j'en suis sûr, à la librairie L'Instant. Chez Sandrine Babu. Allons voir. Bonjour Sandrine.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir. Trois coups de cœur. Et vous m'avez dit, il y en a un qui est un peu sombre. On va peut-être commencer par celui-là, comme ça on aura le soleil après.
Exactement, il y aura beaucoup de soleil d'ailleurs après.
Alors qu'est-ce que c'est ?
Alors donc c'est un livre de Raphaël Jérusalmi qui s'appelle In Absentia, qui est chez Actes Sud. Raphaël Jérusalmi, moi j'avais adoré La Rose de Saragosse, donc c'est un auteur que je vous recommande sur tous ses livres. Donc là, il nous plonge donc dans les heures sombres donc, de la Deuxième Guerre mondiale, dans le camp du Struthof, qui était le seul camp de concentration français. Et c'est une rencontre entre deux déportés. Donc un qui a accepté de se charger de bases œuvres, donc en fait d'achever des prisonniers qui sont soumis à des expérimentations de la part du médecin nazi. Et un autre déporté qui, lui, est un collectionneur d'art. Il est à Paris, un peu insouciant. Il ne pense pas que ça peut venir jusqu'à lui. Et il est déporté également. Donc, ce qui est beau dans ce livre, bon, déjà, c'est important de toujours reparler de cette période-là. C'est assez atroce. On est pris à la gorge. Mais il y a aussi beaucoup d'humanité. Et vraiment, à la fin du livre, cette rencontre va vraiment se matérialiser. Il y a aussi un épisode final que vous découvrirez qui est très touchant. Donc c'est un livre que vraiment je vous conseille de lire.
Raphaël Jérusalmi chez Actes Sud, In Absentia. Merci. Effectivement, ce n'est pas le plus joyeux, mais on n'est pas obligé de se marrer tout le temps non plus. Le deuxième.
Alors le deuxième, c'est un premier roman d'une femme qui s'appelle Taëlle Boust et qui s'appelle La mère à côté. Et c'est aux éditions Anne Carrière. Donc dans ce livre, qui est vraiment une énorme déclaration d'amour à sa maman, Taëlle Boust nous parle de sa mère qui a 92 ans, mais qui pense en avoir 67, qui a vieilli, qui a la maladie d'Alzheimer. Donc le sujet, forcément, est un peu lourd aussi. Mais alors ce livre est tout sauf lourd. Ce livre est fantaisie, ce livre est drôle. Donc elle nous raconte ses visites à sa maman qui n'a pas perdu son sens de l'humour et de la répartie. Elle revient aussi sur leur histoire commune, sur son enfance, sur des épisodes marquants de sa vie. Et voilà, c'est très émouvant, c'est très tendre. Et puis, ça aborde aussi un sujet qui n'est pas assez abordé, parce qu'on des fois, on se dit, oui, un livre sur la vieillesse. Et en fait, non. Vraiment, celui-ci, vous pouvez tout à fait le lire et vous serez content de l'avoir lu.
Et la couverture est chouette. Hein.
Ouais, très chouette, avec une photo de cette dame quand elle était plus jeune.
Avec une photo noir et blanc, avec les bords blancs dentelés, comme ça. Taëlle Boust, La mère à côté, c'est chez Anne Carrière. Et puis, un petit dernier pour la route.
Oui. Alors, un petit dernier, donc là, c'est Fabrice Caro, c'est Samouraï, donc aux éditions Gallimard.
Collection. Fabrice Caro qui est venu dans La Voix et Livre il y a quelques semaines, mais au contraire.
Voilà, et pas fait exprès, coïncidence. Donc Fabrice Caro, on le connaît bien sûr sous le nom de Fab Caro et sa fameuse BD Zai 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 Zai, que je ne peux que vous recommander aussi. Là, on est donc sur un roman avec un narrateur toujours dans l'absurde, dans le second degré, dans les gratignages de nos vies modernes. Et donc, c'est un écrivain. Il a écrit un premier livre qui ne marche pas très bien. Il essaie d'en écrire un deuxième, mais il veut que ce soit un roman sérieux. Et évidemment, là, ce roman que j'ai entre les mains est tout sauf sérieux. Donc, ça, c'est déjà très réussi. Donc, on essaie de le présenter à des jeunes femmes parce qu'il vient de rompre. Donc, on veut absolument lui présenter une femme qui lui convienne. Et évidemment, ça ne marche pas. Il s'occupe d'une piscine. Et les piscines, c'est vrai que quand on ne s'en occupe pas très bien, elles ont tendance à verdir. Et il y a des insectes bizarres. Alors moi, je ne connaissais pas les notonectes qui font leur apparition. Et même après, d'autres animaux. Bon, voilà. En fait, c'est pétri de, d'anecdotes, de digressions. Et on rit, mais alors moi, je ne ris pas très souvent quand je lis des livres. Mais alors là, vous pouvez y aller.
Ouais, c'est hilarant. Samouraï de Fabrice Caro chez Gallimard, collection Signes. Et puis on a dit Raphaël Jérusalmi, Actes Sud, ça s'appelle In Absentia. Et puis La mer à côté chez Anne Carrière de Taël Boust. Merci beaucoup Sandrine.
Merci Nicolas.
De retour à Europe 1 et Sébastien Bordenave nous a rejoint. Bonjour Seb.
Bonjour, bonjour à tous.
Je vous présente Antoine Billot.
Enchanté.
Ça ferait une très bonne adaptation de bande dessinée d'ailleurs, ce Soldat Ulysse.
Je vous crois sur parole.
Alors, Sébastien, si vous avez des contacts, n'hésitez pas. Vous avez deux bandes dessinées,
oui,
j'imagine.
Oui, ce dimanche, deux BD qui jouent la carte de l'humour, mais qui la jouent de façon totalement différente. D'abord, Space Connection chez Glénat de Body et El Diablo. C'est une BD super bien dessinée avec un graphisme digne des meilleurs albums de science-fiction, sauf que là, on est dans la rigolade la plus subtile et la plus efficace. Alors, ça se passe dans un univers de pandémie, de catastrophe écologique, d'extinction de masse de la biodiversité. J'ai envie de dire, jusque-là, on connaît, c'est la routine. Mais la BD y rajoute des extraterrestres qui nous observent, nous jaugent et nous jugent. Alors, c'est en deux tomes, mais les histoires sont autonomes.
Ils ne doivent pas être déçus.
Voilà, exactement. La première histoire raconte par exemple, comment une dizaine de grands scientifiques sont enlevés par des extraterrestres, puis enfermés tout nus dans une prison intergalactique. Rapidement, ils recherchent un moyen de s'échapper. Les extraterrestres, en les observant, concluent, en parlant de notre espèce, Nicolas, que nous n'avons définitivement aucun sens de l'action collective avec des organes reproducteurs qui semblent régir la plupart de nos décisions.
C'est bon.
J'avoue manquer d'arguments pour tenter de les contredire. En tout cas, c'est très drôle, c'est très beau. Et à la fin de l'album, il y a des brouillons du dessinateur qui montrent les étapes de création graphique des monstres. Moi, j'adore ça. Ça m'éblouit à chaque fois. C'est Space Connection chez Glénat de Body et El Diablo.
Ah ouais, il y a les coulisses de l'atelier.
Exactement.
Quoi.
La création.
Superbe. Le deuxième ?
Eh ben, la deuxième BD, on change totalement d'humour et de graphisme. Les dessins sont minimalistes et c'est une force. On se projette tout de suite dans l'univers de ce couple. Une maman et une maman. Elles élèvent ensemble trois garçons. Un qui est né en 2012 et des jumeaux en 2013. La BD raconte le quotidien d'une famille homoparentale et franchement, à part le regard des autres, ce que décrit Séverine, la dessinatrice qui se met en scène, c'est le quotidien de n'importe quel autre couple. D'ailleurs, ça s'appelle « Chronique décalée d'une famille ordinaire ». Et en petit, en dessous, c'est écrit « Et vice-versa ». Comprenez que la BD aurait très bien pu s'appeler « Chronique ordinaire
d'une famille décalée ».
Exactement. Une page, une histoire. Elles sont redoutables d'efficacité. Exemple, le plus grand des garçons discute avec un Père Noël de magasin qui lui dit « C'est lequel le plus jeune de tes frères ?» L'aîné répond « Les deux ». Bah oui, forcément, ils sont jumeaux. Du coup, le Père Noël dit « Les deux ? Ah bon, bah attends, je vais demander à ta maman. Alors, c'est laquelle des deux dames, ta maman ?» Donc le petit garçon dit bah, « Les deux, ça n'existe pas ton histoire. » Le petit garçon répond au Père Noël « Mais c'est toi qui n'existe pas. Voilà. » Une autre, Séverine, la maman est au bureau, il est tard. Une collègue compatissante lui dit « Séverine, tu devrais rentrer décompressée. En plus, tu as trois petits garçons qui t'attendent à la maison. » Et Séverine de répondre avec franchise « Bah justement. » Voilà, c'est plein de petites tranches de vie très sympas. Qui parleront,
tout le monde connaît ça.
Oui, voilà, qui parleront au plus grand nombre. C'est plein de poésie et de moments assez trash aussi. Allez, un petit dernier. Il y a une case où c'est marqué « Paul, éloigne-toi tout de suite de ce chien. La dame arrive. » Ne vous inquiétez pas, madame, il n'est pas dangereux, mon chien. » Et la maman répond « Votre chien, non, mais mon fils, oui. » Voilà. Ça s'appelle « Chronique décalée d'une famille ordinaire » de Séverine Thalès.
Parfait, vous avez une citation, j'imagine.
Allez, une petite citation BD, elle vient de Joe Dalton, le plus petit, le plus hargneux des frères Dalton.
Il m'énerve.
Il dit « Il y a un truc que je déteste, c'est un banquier consentant, ça enlève tout le plaisir du hold-up. » Voilà. Bon dimanche.
Antoine Billot, vous la bande dessinée, maintenant ou avant
C'est pas trop mon univers en fait. Non, j'ai même petit, enfin c'était plus ou moins un peu interdit, c'est un bien grand mot, mais enfin bon, ça n'avait pas trop de droit de cité chez moi.
Ah,
bon,
c'était subversif.
Peut-être, oui, je sais pas très bien. Enfin, bref, il n'y en avait pas. Et donc, ça m'a marqué durablement. Alors, mes enfants, mes fils, eux, se sont mis à fréquenter la BD. Donc, j'ai porté un regard très, très lointain là-dessus. Je suis assez étonné par celui de Séverine Thalès. Tous les visages sont représentés en l'absence. Il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de nez. C'est une face blanche, c'est assez troublant comme représentation.
Très original.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait,
on y met ce qu'on veut. Quoi.
On en voit plusieurs. C'est en fait, il y a une espèce comme ça de d'isomorphie avec la littérature. Parce qu'il y a vraiment des styles là, quand on voit les deux.
Complètement différents.
On voit des styles qui sont absolument radicalement différents. Quoi.
Absolument. Et encore différent, Le Soldat Ulysse chez Gallimard, prix Europe 1 GMF. Merci beaucoup Antoine Billot.
Merci à vous.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci aussi à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Palchinski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpech pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1. 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.